Je vous propose de lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Nous sommes dans le sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus termine ici le sermon sur la montagne avec des images et des déclarations chocs. Nous savons que la foi en Jésus-Christ est essentielle. Elle est indispensable pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Mais Jésus nous fait comprendre ici quel type de foi constitue la foi authentique. Je trouve ce texte très important dans le contexte actuel de la chrétienté. La Bible dit qu'il y a une seule foi, mais reconnaissons qu'on a du mal à se retrouver dans la foi de certains, entre ceux qui croient ce qu'ils veulent, d'autres qui font comme ils ont envie, d'autres qui mélangent tout. La foi en Jésus-Christ n'est pas de la superstition, ni de la crédulité, ni du mysticisme. Quelques précisions sur la foi authentique à partir de ce texte. D'abord, la foi authentique ne consiste pas dans une confession superficielle de la Seigneurie de Jésus, mais dans une soumission à sa Seigneurie. Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Jésus dénonce ici une confession superficielle, une confession qui se limite au niveau des lèvres. Une foi où l'on se revendique de Jésus-Christ quand ça nous arrange, mais on l'écarte aussi quand ça nous dérange. La confession ici, elle est polie, elle est juste, elle est enthousiaste, Seigneur, Seigneur, elle est publique, mais il manque la soumission à la Seigneurie de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous parle de confesser notre foi dans le salut en Jésus-Christ, mais aussi dans la Seigneurie de Jésus-Christ. Le baptême consiste à croire que Jésus est notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9, c'est Paul qui écrit, et il dit ceci, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Ce texte montre l'importance d'une certaine confession de Jésus-Christ. Ici, il est question d'une confession de la bouche et du cœur. Le mot confession, c'est le mot homologeo, qui a donné homologué, qui signifie une prise de position commune, où on dit ensemble avec Dieu. Homo, ensemble, logo, déclaré, parole. Le cœur nous parle du centre, de l'intérieur, mais aussi de tout notre être. Il est donc évident que confesser Jésus comme Seigneur doit conduire à le laisser exercer sa Seigneurie sur nos vies. C'est lui qui prend les commandes. C'est lui qui a désormais les clés de notre cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une confession superficielle, c'est une confession sur le sable. Reconnaître la Seigneurie de Jésus sur sa vie, c'est bâtir sur le roc. Deuxièmement, la foi authentique ne consiste pas dans des manifestations spirituelles, mais consiste avant tout dans le refus de l'iniquité. Jésus envisage le cas de personnes qui auraient exercé les dons spirituels, de personnes qui auraient non seulement vécu les miracles, mais qui l'auraient même exercé, et qui pourtant sont disqualifiées et condamnées au bout du compte. Jésus nous fait comprendre que les dons spirituels ne garantissent pas la fiabilité de celui qui les exerce, que le fait d'exercer des miracles ne constitue pas une médaille pour exploits accomplis dans le domaine du surnaturel. Ces personnes dont nous parle Jésus, qui sont-elles ? Est-ce que Jésus fait allusion aux Juifs de l'Ancien Testament, certains qui avaient vécu des choses ? Peut-être, probablement. Mais elles nous font penser aussi à des personnes qui étaient dans le coup, au départ, qui sont rentrées dans des expériences, mais qui avec le temps ont dérapé. La pratique des dons spirituels est devenue comme une façade, un écran. Quand une personne glisse dans la pratique du péché, et là j'insiste sur l'importance du terme, et qu'elle ne traite pas ses problèmes, la pratique des dons spirituels pourra continuer un moment, mais elle cessera à un moment donné. Ne perdons pas de vue que Dieu confirme son message, et non un prédicateur, quand il accomplit des miracles. Et aussi qu'il passe parfois outre les péchés d'un prédicateur, parce que son but premier est d'abord de sauver les pécheurs. Jésus leur dit ici, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Iniquité, c'est anomia, sans loi. Il n'est pas question ici d'une chute ponctuelle, mais d'une pratique du péché, d'une vie dans le péché. Dans l'épître de Jean, Jean déclare « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça peut lui arriver de pécher, mais il le refuse, il ne veut pas vivre dedans. Sur le roc, c'est refuser le péché dans sa vie. Sur le sable, c'est vivre avec et se voiler la face. Troisièmement, la foi authentique ne consiste pas dans une attitude apparente, mais dans une attitude intérieure. J'imagine que ces personnes en connaissaient beaucoup sur Dieu. Elles devaient connaître leur Bible, les textes de l'Ancien Testament, toutes les histoires de la Bible, ils connaissaient la doctrine, les vérités fondamentales, et certainement pouvaient les expliquer mieux que beaucoup d'autres chrétiens sincères, ou croyants sincères. Ils étaient capables de défendre leur foi devant quelqu'un. Dans Luc chapitre 6, cette même illustration est donnée un peu différemment. Et Jésus ajoute, où il parle aussi de creuser, et de creuser profondément. Nous le savons, si on veut bâtir durablement, si on veut bâtir haut, si on veut bâtir solidement, il faut des fondations profondes. La plus grande tour du monde, qui fait 830 mètres de haut, elle est bâtie à Dubaï. Finalement, elle est bâtie sur du sable. Je sais qu'une autre de 1000 mètres, dans un pays voisin, est en cours de construction ou en projet de construction, mais c'est toujours bâti sur du sable. Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Comment comprendre cette déclaration solennelle de Jésus ? Personnellement, je comprends cette déclaration ainsi. Je n'ai jamais pu vous atteindre à l'intérieur de vous-même, dans le secret de votre cœur. Je n'ai pas pu agir dans votre conscience. Je n'ai pas pu faire changer vos désirs. Je n'ai pas pu vous interpeller dans vos débats intérieurs. Jésus a dit en une autre occasion aux pharisiens qu'il devait s'occuper de l'intérieur. Et ainsi l'extérieur deviendrait net. Et ça, c'est une vérité. Jésus veut s'occuper de l'intérieur, d'abord. Il veut agir à l'intérieur de nos vies. La foi, elle commence à l'intérieur, pas sur l'extérieur. Cela évoque aussi une relation à double sens, et pas seulement de manière unilatérale. Trop souvent, j'ai vu des personnes qui veulent que Jésus leur donne ce qu'elles demandent, leur viennent en aide matériellement, physiquement, mais elle ne veut pas être atteint à l'intérieur. Celui que Dieu veut connaître, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est pas celui que je montre, c'est celui qui est à l'intérieur. Sur le roc, bâtir sa vie sur le roc, c'est se laisser atteindre à l'intérieur de son cœur. Se laisser se transformer dans son être intérieur. Et puis, la foi authentique ne consiste pas dans une écoute passive, mais dans la prémise en pratique de ce que Dieu nous demande, dans ce que Dieu nous montre. Jésus montre bien Ce qu'il veut faire ressortir avec cette parabole des deux constructions de maisons. La comparaison de ces deux maisons sur le roc et sur le sable est faite dans le but de comparer une croyance où l'on se contente d'écouter et une foi où l'on met en pratique la parole que nous entendons. On a tous entendu un jour cette parole et peut-être que vous l'avez dit auparavant, vous le dites encore, croyant mais pas pratiquant. Mais pour Dieu, un croyant pas pratiquant n'est pas un croyant. Un croyant, c'est forcément quelqu'un qui va pratiquer ce qu'il croit. Et je ne parle pas de la pratique d'une religion, je parle de la mise en pratique de ce que Dieu nous demande. Jacques déclare dans son épître au chapitre 1er, verset 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auteur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Cette parabole nous fait comprendre finalement pourquoi on ne met pas en pratique ce que Dieu dit. Pourquoi quelqu'un va bâtir sur du sable ? On bâtit sur le sable parce que c'est plus facile. Nous avons tous fait, enfants, des constructions sur le sable. C'était facile, ça allait vite. Construire sur le sable demande beaucoup moins d'efforts, tandis que construire sur le roc nécessite de creuser. Ça demande des efforts. C'est plus pénible. Nous sommes une génération qui a tendance à chercher toujours la facilité. Beaucoup de choses sont faites pour nous faciliter la vie. Sauf que la foi nécessite aussi des choix difficiles, des renoncements, des engagements qui coûtent, de la persévérance, de la patience, de la fidélité, des prières et une vie de prière, des conflits entre ma volonté et celle de Dieu. On bâtit sur le sable aussi parce qu'on veut aller plus vite. On veut que tout soit fini rapidement pour pouvoir jouir de sa maison. On n'a pas envie d'y passer sa vie à construire. On veut en jouir. Celui qui construit sur le roc regarde plus loin. Il sacrifie en partie son présent, renonce à une jouissance immédiate. Attention à cet évangile orienté uniquement vers la réussite et la prospérité d'ici-bas, et délaissant les choses éternelles, les choses invisibles. Nous bâtissons d'abord pour l'éternité. L'évangile de la prospérité, c'est souvent un évangile qui conduit à bâtir sur du sable. On bâtit sur le sable parce qu'on pense qu'on échappera aux tempêtes et aux inondations. Quand nous regardons un reportage sur des catastrophes, par exemple des inondations, on a tendance à ne pas se sentir concerné. On a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres, à ceux qui habitent loin. Et quand les gens sont interviewés, ils répondent souvent « On ne pensait pas que ça nous arriverait un jour. » Attention à cet évangile qui pourrait nous laisser penser que nous échapperons toujours aux épreuves, aux difficultés. Une fois que je suis baptisé, je ne risque plus rien, c'est faux. Les épreuves de la vie, les difficultés peuvent tous nous atteindre. Il y a des difficultés que nous devrons un jour ou l'autre affronter, comme la maladie, l'échec, le deuil, les drames. Et c'est pourquoi il faut creuser, c'est pourquoi il faut une vie avec des fondements, avec de la profondeur, pour que lorsque ces difficultés nous atteignent, on puisse y résister. On peut noter ici que la tempête agit comme un révélateur, parce que les fondations ne se voient pas. L'inondation nous parle aussi du jugement divin. Quelqu'un qui prétend être chrétien, mais dont la vie n'est pas profondément fondée sur Jésus-Christ, est dans l'illusion, et il perdra tout au moment de quitter cette terre. Il y a manifestement deux types de chrétiens. Des gens qui pensent l'être, mais qui finalement ne le sont pas, ils sont dans l'illusion. Il n'y a pas la foi authentique, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre avec Jésus, et puis ensuite une vie bâtie sur le roc. Et puis, il y a donc ceux qui le sont, réellement, parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, mais ils ont mis en œuvre leur foi. Nous sommes sauvés par la foi, mais pas n'importe quelle foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Mais n'oublions pas que Paul ne s'arrête pas là. Tout de suite après cette déclaration, il ajoute « Ceci, vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu les a préparées d'avance afin que nous marchions en elles, afin que nous les pratiquions. » Ces œuvres commencent sur les choses que nous venons de voir. Le croyant authentique permet au Seigneur Jésus de régner sur sa vie. Il refuse le péché. Il se laisse atteindre dans son être intérieur. Il écoute et il met en pratique ce que Dieu lui demande. Je vous souhaite de rencontrer Jésus-Christ, de découvrir ce que Jésus a fait sur la croix, d'expérimenter la nouvelle naissance. Mais une fois que vous l'avez vécu, marchez en lui. Mettez en pratique la foi, qu'elle ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit au niveau de votre cœur. Je prie maintenant pour vous. Je te prie, Seigneur, de déclencher la foi dans le cœur, de te révéler, de révéler ton amour, de révéler ce que tu as fait sur la croix. Suscite la foi dans le cœur, mais pas une foi superficielle, une foi qui va se manifester par une manière de vivre, qui va déboucher sur une mise en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels, apparents, mais des chrétiens authentiques, sauvés par la grâce et marchant par la foi et dans la foi. Que ton nom soit béni. Amen.